À toi ce matin. Je te remercie, Seigneur, ce matin, eh bien, de fortifier notre sœur Edith dans sa santé, de la renouveler dans ses forces. Parce que tu es le Dieu qui nous accompagne, tu es le Dieu eh bien, qui nous connaît par notre nom. Tu nous connaissais quand nous étions dans le ventre de notre mère. Tu es le Dieu qui nous protège depuis le commencement jusqu'à la fin et dans l'éternité. Je te remercie parce qu'il est bon de savoir que je m'adresse à toi, Jésus, qui est vivant et que tu es toujours un Dieu de proximité. Tu l'as démontré en venant sur la terre, donnant ta vie pendant 33 ans et donnant même jusqu'à la mort afin de ressusciter. Je te remercie, mon Dieu, parce que cette puissance de résurrection, eh bien, je sais qu'elle est ce matin dans ce message. Je crois, Jésus, que tu vas apporter à chacun qui avait écouté ta parole ce matin à travers notre frère Fabrice. Eh bien, je crois, Seigneur, que tu parles à travers cet homme ce matin. Je te remercie de fortifier chacun. Je te remets aussi... Eh bien, notre sœur Sophie, la fille de la sœur Michel, je crois aussi que tu veilles sur elle, que tu la protèges, ainsi que son enfant, et tu permets que toute cette situation puisse revenir dans le bon ordre. Je te remercie de fortifier aussi notre sœur Sophie et tous ceux qui écoutent aussi ce message sur Internet aujourd'hui. Merci Jésus de fortifier chacun. Merci Jésus. Amen.
Amen. Je suis content ce matin. C'est un miracle sous nos yeux ce matin. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans une ville du Burkina Faso qui s'appelle Bonfora, avec notre frère Nicolas Savadogo, dont je viens d'avoir des nouvelles, avec une belle photo de Sally et du bébé. Maintenant, c'est plus un bébé. Hein. Et, oh là là, elle est vraiment jolie, cette gamine, elle pousse, c'est magnifique. Et puis Sally, elle a bien maigri. Et donc voilà, j'étais là à Bonfora, on faisait des réunions et c'était très béni, on a eu beaucoup de miracles, c'était magnifique, beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit, c'était superbe. Et puis il y avait là un pasteur tout maigre. J'ai commencé un peu à discuter avec lui, puis vous savez comment je suis curieux, je pose des questions, je voulais savoir et tout. Et c'est là que j'ai appris avec stupéfaction que la plupart des pasteurs burkinabés, il y a une dizaine d'années, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, gagne à peu près 50, je parle en francs, 50 francs par mois, avec les femmes, la femme et les enfants. J'étais scié, complètement stupéfait et tout. Et voilà, j'écoutais ce pasteur qui me racontait son histoire. Il ne s'est pas plaint, c'est moi qui, comme on dit ici, je lui tirais les vers du nez. Je voulais savoir parce que, quand on arrive dans un pays, il faut apprendre, savoir qu'est-ce qui se passe, comment c'est et tout. Et comme il était gentil, j'ai osé poser toutes ces questions. Et il m'a parlé très franchement. Et puis, on s'est revus encore d'autres fois. Je crois que je suis redescendu une fois à Banfora avec Nicolas. On a encore eu des réunions. Et puis, on s'est un petit peu perdu de vue. Et puis, j'entendais parler de lui. Et tout d'un coup, je reçois un mail qui me dit que, oh, mais il va vous raconter tout ça ce matin. Il a progressé, ce frère. Waouh! C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et je suis tellement fier de voir ce que Jésus a fait dans sa vie, comment il s'est accroché, comment il s'est battu, et comment avec son épouse, ils sont arrivés là où ils sont. Et ils veulent aller encore aller plus loin pour Jésus. Et ça, c'est magnifique. Ce matin, je suis très fier, très honoré, très content de vous présenter mon frère Fabrice Soma. Mon frère, la parole est à toi. Pas plus de 5 heures, s'il te plaît. Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Dieu te bénisse.
Merci. Ok, je salue tout le monde. Comme le pasteur l'a dit, mon nom c'est Fabrice Soma. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut commencer. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Très content d'être en France ici. C'est une grâce du Seigneur. Il y a une histoire, je crois que vous l'avez déjà entendue. En fait, c'est une histoire que les gens ont inventée pour illustrer quand même une certaine vérité. Les animaux de la brousse qui avaient une conférence. On cherchait un conférencier et finalement on a trouvé les crapauds qui devaient aller donc faire la conférence. Mais c'était très loin. Pour aller là-bas, il fallait un long déplacement. Alors l'aigle s'est proposé donc d'envoyer donc les crapauds à cette réunion. Et l'aigle donc a attrapé un bâton de ses deux pattes et le crapaud s'est accroché avec sa bouche sur le bâton. Et l'aigle a volé haut avec les crapauds en haut. Et l'aigle allait, et les gens regardaient, on dit, mais c'est pas le crapaud comme ça? Les gens disent, oui, c'est le crapaud. D'autres disent, non, c'est pas lui. Et d'autres disent, non, c'est l'aigle qui l'emporte. D'autres disent, non, c'est le crapaud même qui arrive à partir lui-même. Les gens étaient en tout cas perplexes. Et les crapauds les entendaient parler. Et finalement, le crapaud, voulant se glorifier, a ouvert la bouche pour dire, oui, c'est moi. Et quand il a ouvert la bouche, il est évidemment tombé, puisqu'il s'était accroché de sa bouche. Il est évidemment tombé par terre. Alors, c'est pour dire quoi? Je suis comme ce crapaud, mais la différence, je vais éviter d'ouvrir ma bouche pour dire que c'est moi. C'est le Seigneur Jésus. Parce que, comme le pasteur l'a dit, je ne pensais jamais arriver ici en France, jamais arriver ici dans la communauté. C'est vrai que j'avais eu des promesses, mais de la part du Seigneur, mais vraiment, je ne pensais pas qu'elles allaient se réaliser. Donc, je suis vraiment très content de ce que le Seigneur a fait. On s'est rencontrés, comme m'a dit le pasteur, il y a au moins une dizaine d'années. On vivait des conditions vraiment difficiles, mais bon, nous, on est habitués. On peut manger 2 repas par jour. Le matin, il arrive qu'on tourne, on ne mange pas. Et on mange à midi et puis le soir. Bon, on est habitué, c'est comme ça. Voilà, on s'est donné pour servir le Seigneur et c'est comme ça. Donc, quand il m'a vu, effectivement, en tout cas, j'étais très maigre. Très, très, très maigre. Je n'étais pas encore marié. Et plus tard, je me suis marié. J'ai décidé ce matin, au lieu de prêcher beaucoup, de donner les témoignages de ma vie. Et puis, bon, en vous encourageant aussi par certains versets. Donc, je vais revenir sur l'histoire de la communauté, mais je vais commencer d'abord par mon témoignage. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un passage de la parole de Dieu. Alors, Actes chapitre 16, verset 31. Que vous connaissez par cœur. Actes 16, 31. On va je sais pas, je connais pas trop l'habitude ici. Après, on va lire d'autres passages, mais j'aimerais lire ce passage. Donc, Actes 31, Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Voilà, merci. Donc, le témoignage, pour ce qui me concerne, je suis né en 1970, le 22 août précisément. Mon village, la ville de Banfora, se situe au moins à 500 km comme ça de Ouagadougou. Et c'est à l'ouest du Burkina Faso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Notre ethnie, comme vous savez, en Afrique, il y a plusieurs ethnies. Au Burkina, il y a au moins près de 65 ethnies différentes. Notre ethnie, nous nous appelons donc les Gouins. Notre Bible, la Bible a été traduite dans notre langue. Elle vient juste de finir le Nouveau Testament par des Suisses allemands. Une Suisse allemande qui a fait au moins 30 ans, elle comprend bien ma langue, Ruth Koudman. Donc, c'est elle qui a traduit la Bible dans ma langue. Je suis vraiment reconnaissant aux Suisses et particulièrement à cette femme-là. Alors, j'ai connu ma date de naissance parce que ce jour-là, mon grand frère, qui était, je dirais, le seul lettré du village, partait en Côte d'Ivoire pour la première fois. Donc, il était élève en ce temps. Donc, il a retenu la date de son voyage en Côte d'Ivoire et ça coïncidait avec ma naissance. C'est pourquoi j'ai connu cette date, sinon je ne l'aurais pas connue. Alors, quand je suis né, on m'a confié au forgeron pour que je ne meure pas. Parce que ma maman a eu au moins 9 grossesses, c'est-à-dire 9 enfants. Tous les 9 enfants, à ma naissance, il n'y avait que 2 personnes qui restaient. Mon grand frère, mes 2 grands frères et puis moi. Donc, alors, tous les autres mouraient. Alors, vous savez, chez nous, Michel m'a dit que vous ne croyez pas aux sorciers, mais nous on croit aux sorciers. Donc, nous, on se disait que c'est la sorcellerie. Mais aujourd'hui, quand même, avec l'instruction, je commence à comprendre aussi que c'était aussi le manque de soins, puisqu'il n'y avait pas d'infirmerie, il n'y avait rien. C'était la sélection naturelle. Celui qui vit, c'est lui. Celui qui meurt aussi. Bon, c'est comme ça. Alors, on m'a confié à des forgerons. D'où mon nom, même mon nom Gouin, c'est Tuntumbié. Tuntumbié veut dire Tuntum, c'est forgeron, et Bié veut dire fils du forgeron. Donc on m'a confié à des forgerons afin que alors, je ne puisse pas mourir. Alors, et à 2 ans déjà, j'étais orphelin. Mon papa est décédé en 72. Bon, moi, je suis né en 70, donc je ne l'ai même pas bien connu. Alors, nous avons vécu avec notre oncle. Parce que chez nous, quand donc le grand frère meurt, sa femme, la femme est héritée par l'oncle. Et ainsi donc, on a vécu avec l'oncle. Mais en réalité, notre oncle était vraiment méchant. Il ne nous a pas bien traités. Moi, je me souviens, j'ai des scènes terribles dans mon esprit. Je sais qu'à 6 ans, on était parti à un mariage, on revenait. Le mariage, c'était au moins à 15 km de mon village. J'avais 6 ans comme ça, je revenais, je suivais les femmes en marchant. Et puis lui, il passait avec son vélo. Les femmes ont dit, mais voilà ton fils, il faut le prendre. Il dit, il préfère prendre un caillou. S'il prend un caillou, chez nous, on construit les greniers avec des cailloux. Que s'il prend un caillou, il pourra faire une bonne fondation pour construire son grenier. Ça vaut mieux que de me prendre sur son vélo. À 9 ans aussi, j'ai eu quelques difficultés. En tout cas, j'ai des scènes dans mon esprit où je n'ai pas vraiment été bien traité. Je ne sais pas trop pourquoi. Il avait une femme, il n'avait que des filles. Chez nous, en Afrique, les gens ne veulent pas avoir des filles uniquement parce qu'ils pensent que les filles, bon, il n'a pas d'héritier, etc. Donc, il n'était pas content. Alors que mon papa, avec aussi notre maman, n'avait aussi que des garçons. Donc, à sa mort, donc, il a pris donc ma maman, au lieu que ça soit une joie, parce que c'est un complément, l'autre a des filles, l'autre a des garçons, mais bon, lui, il était plutôt aigri contre nous. Alors, et cela va se poursuivre. Maintenant, mon grand frère qui était donc instruit, qui était donc qui était enseignant, voulait me mettre à l'école. Pourquoi mon grand frère a fréquenté, bon, ça c'est aussi c'est une petite histoire, parce que chez nous, les gens ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école dans les temps. Alors, le grand frère, notre papa était un champion de culture. Chez nous, on cultive avec la main et avec la houe. Ce n'est pas même comme à Ouagadougou, où on cultive avec la petite daba. Chez nous, c'est la houe. Et chez nous, les femmes même travaillent plus que les hommes avec la houe. Alors, mon papa était champion de culture, puisque avec la houe, on trace des lignes, comme si vous voyez les bœufs cultivés avec la charrue. Donc, on trace des lignes. Et il était le premier, chaque fois, à sortir et à doubler les autres. Donc, il était champion chez nous, puisque les gens faisaient la concurrence en cultivant. Alors, il a fait tout cela. Et puis, bon, à la fin de sa vie, il a vu qu'il n'avait pas eu grand-chose. Dans les temps, avoir beaucoup de femmes, c'était chez nous comme... un grand héritage. Il n'avait qu'une seule femme. Il n'a pas pu avoir beaucoup de femmes. Il n'avait pas eu grand chose. Et il savait qu'il allait mourir tôt. Donc il a dit que si c'est comme ça, il préfère inscrire son enfant à l'école parce que l'agriculture ne lui rapporte rien. C'est pourquoi il a concédé à inscrire mon grand frère à l'école. Donc ce grand frère qui était devenu enseignant, donc voulait moi aussi m'inscrire à l'école. J'étais donc le dernier de la maman. Donc, il voulait m'inscrire à l'école. Mais l'oncle s'opposait. Il s'opposait pourquoi? Parce que moi, j'étais berger. Je gardais donc ses moutons. Et il ne voulait pas que du tout que moi, j'aille à l'école. Puisque il s'est dit que bon, si je pars, il n'y a que des filles qui restent. Chez nous, les filles n'ont pas l'habitude d'être bergères. C'est vrai que en cas de force majeure, il y en a, mais bon, elles n'ont pas l'habitude. Donc l'oncle s'est opposé, quand j'avais donc l'âge de 7 ans, il s'est opposé. À 8 ans également, il s'est opposé. À 9 ans, il s'est opposé. À 10 ans, il s'est opposé, jusqu'à l'âge de 12 ans. Mon grand frère, chaque fois quand il enseigne les autres enfants et qu'il ne me voit pas, il n'est pas content. Il veut m'inscrire à l'école, mais l'oncle également s'oppose. Il a, chez nous, la coutume veut qu'il respecte l'oncle comme le papa. Puisque c'est lui qui a arrêté ma maman, celui qui est le représentant de la famille, il n'a pas le droit de désobéir. Alors donc, il faisait tout pour m'inscrire, mais il ne pouvait pas. Parce que l'oncle n'était pas d'accord. Alors, c'est là que je pense que c'est le Seigneur qui a intervenu. Je ne sais pas, si je vous fatigue trop, j'aimerais qu'on lise Job 33. Avant de continuer, Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Alors, moi, j'ai la version second 21. Donc, c'est pourquoi ça, ce n'est pas exactement la même chose que vous. Donc, mon grand frère, quand j'avais 12 ans, il va avoir un songe. Il se couche la nuit. Il n'est pas chrétien, puisque chez nous, l'église était très loin. L'église était à Bamfora. Bamfora se trouve à 20 quelques kilomètres de chez nous, donc personne ne connaissait l'évangile. Alors, il va songer. Il rêve. Il voit mon papa qui est venu, en fait, qui est là en blanc. Et puis l'oncle aussi qui est assis. Et lui, il était là. Et le papa était donc en train de gronder sur l'oncle. Pourquoi donc tu empêches le jeune homme d'inscrire le petit à l'école? Pourquoi tu l'empêches? Et le papa parlait avec autorité sur alors l'oncle. Et quand lui s'est réveillé, ayant vu cela, Et c'est Dieu, que, c'est Dieu qui lui parle. Ok, je ne vous... En fait, aujourd'hui, je ne crois pas aux ancêtres, je ne crois pas que les ancêtres parlent, je ne crois pas qu'un mort peut parler, etc. Mais je sais seulement que, comme dit Job, Dieu parle à chacun selon sa compréhension. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar en utilisant une statue, etc. Nebuchadnezzar n'était pas chrétien ni rien, mais Dieu lui a parlé. Et Daniel a interprété que vraiment c'est Dieu qui lui a parlé parce que la statue, voilà ce qu'elle signifie, etc., etc. Dieu peut donc utiliser des moyens pour parler aux hommes. Ce qui est sûr, en tout cas, quand le grand frère a vu ce songe, alors il s'est levé, il s'est dit, bon, comme les ancêtres sont de mon côté, je vais inscrire les petits à l'école. Mais il était difficile de pouvoir m'inscrire directement. Il est parti s'entendre avec... Le maître de l'école rurale. Chez nous, il y avait une école. Ceux qui ne partaient pas, qui n'avaient pas la chance de partir, qui refusaient donc de partir à l'école primaire, cette école-là était forcée. Centre de formation des jeunes agriculteurs, CFGA. Donc, on appelait ça l'école rurale, mais c'est centre de formation des jeunes agriculteurs. Vers l'âge de 17-18 ans, on vous prend et puis on vous forme pour que vous deveniez de bons agriculteurs. Alors donc, il est parti s'entendre avec ce maître-là, comme cette école est forcée, de me prendre et de me mettre dans cette école et pour que l'oncle puisse s'aider. Alors donc, le maître est venu, il m'a pris et il m'a mis à l'école. Pourtant, je n'avais pas encore l'âge de cette école, puisqu'il fallait 17-18 ans. Moi, j'avais 12 ans, ce temps. Donc, il m'a mis à l'école, à cette école-là. Et puis maintenant, le grand frère est venu voir. Maintenant, l'oncle dit que tu vois, je t'ai dit de me laisser mettre les petits à l'école, tu as refusé. Voilà qu'on l'a pris pour aller les mettre dans une école qui ne lui convient pas. Bon, il se disait que s'il fait comme ça, l'oncle va dire, bon, si c'est comme ça, il faut le prendre et puis le mettre dans l'école normale. L'oncle a dit, non, ça ne fait rien, il faut le laisser là-bas. De toute façon, c'est au village à côté ici, ils peuvent toujours venir m'aider pendant les vacances, etc. Alors, il a vu que son plan avait échoué, donc il fallait vraiment l'affronter. Donc il a affronté, il est parti me prendre, il est parti me mettre à l'école. Alors ça a été vraiment difficile. On l'a convoqué en conseil de famille, on l'a insulté correctement, on l'a méprisé, et on l'a menacé. Mais quand même finalement, le chef de la famille lui a dit, bon, comme tu l'as déjà pris, il faut les garder, mais en tout cas, ils ne sont pas contents pour ce que tu as fait. Mais l'oncle même n'était pas content que le chef se soit exprimé ainsi. Lui voulait que je revienne, mais le chef de la famille n'a pas ordonné que je revienne. Donc c'est ainsi que j'ai eu la chance de rester donc à l'école. Et comme l'oncle n'était pas content, il est parti voir les autres parents d'élèves qui étaient à l'école de formation des jeunes agriculteurs là. Leur dit que chacun n'a qu'à retirer son enfant, puisque moi on m'a retiré pour aller me mettre dans une école normale. Donc chacun n'a qu'à retirer son enfant pour révolter les parents d'élèves, mais il n'a pas réussi. Dieu a permis que cela ne puisse pas se faire ainsi. C'est ainsi que donc, à l'âge de 12 ans, je suis allé donc à l'école primaire, dont le grand frère était obligé de suspendre mon âge. Je suis né en 70, il était obligé donc de me faire suspendre d'âge. Chez nous en Afrique, il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Donc il l'a mis donc 75. Donc, si mes actes de naissance, effectivement, je suis né en 75. Mais en réalité, c'est 70. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est 75 que je porte. Alors, mais à l'école, donc, en tout cas, j'étais très intelligent. Ça, c'est pas pour se vanter. Presque tous les primaires, j'étais premier de ma classe. De toute façon, je suis plus âgé que la plupart des élèves. Donc, je comprends mieux que eux. J'ai bien travaillé jusqu'au collège. J'ai eu mon certificat, j'ai eu l'entrée en sixième, aller gagner le BPC, aller gagner l'entrée en seconde, et puis je partais. Et même quand je suis allé à l'école pastorale, je suis sorti major de ma promotion, la première école, et la deuxième école également. J'ai mes bulletins pour ceux qui sont dans la communauté, si vous voulez voir, à la rentrée, je peux vous montrer mes bulletins. Alors, tout s'est passé bien. Maintenant, alors vient l'histoire de ma conversion. Comme j'étais plus grand que les autres enfants, j'étais violent. Je suis turbulent, j'étais violent, je les violentais, je les frappais, etc. Parce que mon grand frère est enseignant et puis il a été aussi directeur d'école pendant longtemps. Alors j'étais violent. Mais après avoir violenté les autres enfants là, quand je viens m'asseoir, quelque chose me dit que toi, tu as péché. Et le pécheur va aller à l'enfer. C'est comme ça, hein? Sans avoir entendu l'évangile. En toi, j'avais cette idée-là. Je dis, mais comment moi je vais faire pour que ce que je suis en train de faire là me soit pardonné? Je n'avais jamais entendu parler de l'évangile. Mais en toi, je savais que bon, les musulmans et autres, là, en toi, on dit qu'il y a un enfer qui existe et que tous ceux qui agissent mal vont aller là-bas. Comment moi je vais faire? J'avais donc le souci, d'être pardonné de mes péchés, un moyen pour échapper, en tout cas, et pour pouvoir donc rentrer dans le paradis. C'est ainsi qu'on a essayé de prier à l'islam, à la manière des musulmans. Bon, mais ça, je n'avais toujours pas la paix du cœur. On a appris le bismillah, quoi, etc. Je n'avais pas la paix du cœur. Bon, et alors est venu, donc, quand j'étais en classe de CM2, un évangéliste est venu. C'était le petit frère de la femme de mon grand frère. Il est venu, nous étions encore petits, donc il a évangélisé la femme de mon grand frère qui voulait se convertir, mais mon grand frère s'est opposé. Mais moi, j'étais à côté et j'écoutais ce que disait ce monsieur. J'ai cru à ce que disait ce monsieur. Et puis bon, nous avons pris les traités, on a lu les traités, et puis en tout cas, à l'intérieur de nous, on était convertis. Bon, j'étais avec un autre garçon, mais maintenant, il n'y avait pas d'église dans les villages. Et comme j'étais en classe de CM2, j'ai eu le CEP à l'entrée en 6e, je me disais que bon, maintenant, on va bientôt, le collège est en ville, on va aller en ville, et à partir de la ville, je vais aller à l'église. Effectivement, nous sommes allés en ville, et quand nous sommes arrivés en ville, je suis allé à l'église. C'était l'Alliance chrétienne, qu'on appelle la SEMA, Christian quoi, Missionary Alliance, un truc comme ça. Donc, je suis allé dans cette église-là. Mais ça n'a pas duré, on a déménagé de ce secteur-là pour aller dans un autre secteur. Et le secteur où on est parti, il y avait les assemblées de Dieu qui étaient à côté. Je me suis renseigné si c'est la même chose. Bon, les jeunes qui avaient évangélisé me disent non, que c'est la même chose. Donc, j'ai continué à aller aux assemblées de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je suis aux assemblées de Dieu. J'ai continué d'aller là-bas. Donc, à ma conversion, les grands frères s'étaient opposés. Celui qui m'avait inscrit à l'école, là, s'était opposé. Mais c'est celui qui, au village, qui l'a convaincu et il a accepté donc de me laisser à l'église. Mais il y avait un autre problème qui se posait. Puisqu'on m'avait confié au forgeron dès ma jeunesse, quand on te confie au forgeron, à un certain âge, quand tu t'approches du mariage, il faut repartir faire d'autres sacrifices pour annuler, en fait. Puisque les forgerons étaient censés te garder jusqu'à ce que tu sois majeur. Maintenant que tu es devenu majeur, il faut aller faire des sacrifices pour les remercier et puis annuler leur impact sur toi. Si tu ne fais pas cela, tu ne peux pas te marier. Si tu te maries, tu as des problèmes, etc. Donc, on m'a dit, maintenant, il faut que tu repartes voir les forgerons pour donc annuler ce qu'on avait déjà fait. J'avais déjà 18, 19 ans déjà. Bon, moi, j'étais nouveau converti, j'étais d'accord pour aller parce que, bon, c'est les parents, si j'ai papa, c'est difficile. Bon, ils ont dit d'envoyer l'argent puisque j'étais boursier. J'avais 8000 francs à la fin du mois. 8000 francs, je ne sais pas, ça fait combien d'euros maintenant, je ne sais pas. 12 euros peut-être, je ne sais pas, voilà, un truc comme ça à la fin du mois. Alors donc, ils ont pris donc mon argent et pour aller payer donc un bélier et puis on allait partir donc sur les forgerons. Dieu a fait que, alors comme eux-mêmes ils sont pauvres, on était tous pauvres, quand ils ont pris l'argent, ils ont bouffé et puis bon, on n'est pas allé sur les forgerons. Ça a pris encore 2 ans et ils ont dit maintenant, ils ne me demandent plus de l'argent. De venir, c'est eux-mêmes qui vont payer pour que je puisse aller annuler l'affaire du forgeron. Mais moi, je grandissais dans la foi, je grandissais. Maintenant, après 2 ans, je dis non, moi, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que je suis chrétien, bon, j'ai compris l'évangile, je ne pars pas. Ils ont dit, ah, si tu ne pars pas, il y aura ceci, il y aura cela. Ils ont dit toutes sortes de malédictions, puisque chez nous, on croit que le forgeron est puissant et que la forge a de la puissance, pour ceux qui ne sont pas chrétiens en tout cas. Ben moi, je leur ai dit non, je ne parle pas, puisque en ce temps déjà, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, on commençait à prier, à chercher les démons, etc. Ben, je leur ai posé la question, le forgeron, où est sa puissance? Est-ce que c'est l'enclume, le marteau, ou bien c'est le charbon? Moi, je crois que ce n'est pas ces choses, c'est un démon qui est là, qui donne la force. Mais nous-mêmes, à l'église, nous cherchons les démons. Ben, comme je m'opposais, ils ont laissé tomber. Bon, la preuve est qu'aujourd'hui, je suis marié, j'ai deux enfants, on n'a pas de problème. Donc, en tout cas, cette puissance n'a rien pu faire. Amen. Alors, donc maintenant est venu le temps de l'appel. Je devais aller à l'école biblique. Mon grand frère n'est pas... Souvenez-vous toujours que le grand frère qui m'a inscrit à l'école n'est pas chrétien. Il m'avait inscrit pour un but. Il dit qu'il a toute la famille. Puisqu'en Afrique, comme il y a la pauvreté, celui qui a de l'argent, c'est-à-dire celui qui est fonctionnaire et qui a quelque chose à la fin du mois, tu as beaucoup de gens sur ton dos. Beaucoup comptent sur toi. Donc lui, il avait toute la famille sur son dos. Il dit que non, il faut quelqu'un quand même qui va travailler. Et bon, nous deux, on pourra nous s'entraider pour aider la famille. Et donc, moi, je suis appelé. Comment je vais dire à mon grand frère? Je ne sais pas si vous vous rappelez le cheminement qu'il a suivi. Il m'a inscrit à l'école contre de grands sacrifices. On était contre lui. Et on l'a convoqué en conseil de famille. On l'a insulté, on l'a méprisé, etc. Il s'est sacrifié, il m'a mis à l'école. Pour lui, c'est pour que je devienne aussi, en tout cas, un cadre pour pouvoir aider la famille. Voilà que moi, j'ai... En toi, le Seigneur, j'ai senti la vocation. En classe de quatrième, en classe de troisième et en classe de seconde. En seconde, c'était vraiment flamme et feu. En tout cas, je voulais servir le Seigneur. Je sentais l'appel. Il y a eu des prophéties, etc. On commençait à faire des prières, des veillées, des prières toute la nuit. On priait. Le Seigneur faisait des miracles. Je me souviens, en classe de seconde, une fois, on était en prière d'intercession. Il y a un monsieur qui venait à l'église, c'était un boiteux. Il avait des problèmes, il se débrouillait avec des cannes, il venait, tout ça là. Et ce jour-là, on priait, et le Saint-Esprit nous a dit que de le mettre devant pour prier pour lui. Eh bien, je continuais la prière, on l'a mis devant, et on a commencé à prier pour le monsieur. À un moment, on voulait s'arrêter, puisque on ne s'attendait pas à ce que quelque chose se passe. On voulait s'arrêter, l'Esprit Saint a dit de continuer. Et quand nous avons persévéré, j'ai vu le monsieur qui tirait ses pieds, qui tirait ses mains, et puis... Oh, il s'est levé, et puis il était redressé, il a marché, il a fait le tour de la chapelle, il a jeté ses cannes, et il a été guéri. En classe de seconde, aucun pasteur n'était avec nous, ni rien. On était jeunes, évangélistes, on évangélisait. Alors, donc, tout cela me poussait donc à aller à l'école. Et comment dire à mon grand frère, je ne savais vraiment pas, parce que je sais que ça va le blesser au fond de lui-même. Ça va bouleverser son plan, et il n'est pas d'accord. Je l'ai informé par une lettre. Quand il a reçu la lettre, il a lu, il s'est assis, il était en train de pleurer. Il y a 15 ans entre lui et moi. Lui est né vers 1955 et moi je suis né en 70. Donc il était, et puis comme le papa n'était pas vivant, il était comme mon papa. Vraiment, je ne voulais pas le faire souffrir de cette façon, mais c'était obligé. Il fallait l'affronter pour lui aussi, pour lui dire la vérité, comme lui l'avait affronté l'oncle dans les temps. Bon, il a pleuré, et il m'a dit que bon, à partir de maintenant, je n'ai jamais compté sur lui. Il ne peut pas me soutenir en rien. De toute façon, il n'est pas d'accord avec ma décision. Il est même venu. On était à Bobo Dioulasso, la deuxième capitale du Burkina. Il est venu à Banfora, chez les pasteurs qui m'avaient recommandé. Il a tergiversé, il a parlé à l'église, il a tempêté. Les pasteurs même avaient peur. Ils ont dit que ah, si ce monsieur revient encore, nous allons annuler ton école publique là. Heureusement qu'il n'est pas plus revenu une deuxième fois. Il m'a convoqué au village, vers l'oncle. Moi, j'ai fait 3 jours de jeûne de prière. En ce temps, vraiment, on jeûnait. Hein. Souvent, je pouvais faire une semaine à eau. Parfois, 3 jours secs. On faisait ça. Alors, j'ai fait 3 jours pour demander au Seigneur. Parce que moi aussi, je voulais être sûr que je ne suis pas en train de me tromper. J'ai demandé au Seigneur. Et vraiment, le Seigneur m'a confirmé que c'est sa volonté de partir. Alors, je suis allé au village. Et on a rencontré l'oncle. Donc, c'était aussi un nouveau conseil de famille par rapport à ma décision. Mais l'oncle, il a ridiculisé le grand frère. Il dit, mais moi, je t'avais dit de laisser les petits au village. Tu n'as pas voulu le laisser au village. Tu es parti l'inscrire pour lui ouvrir les yeux. Maintenant qu'il a les yeux ouverts, c'est qu'il a vu et qu'il veut faire. Il faut le laisser faire. Moi, je ne peux pas me mêler de ça. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. Le grand frère était découragé. Et puis, bon, je suis donc resté. Il m'a abandonné. C'est dans cet état qu'on s'est croisé avec le pasteur Michel, puisque j'étais abandonné. Le grand frère a dit, je ne peux pas compter sur lui. Alors que, comme je l'ai dit, je suis orphelin, les autres sont au village, ils ne sont pas chrétiens. Dans mon ethnie, je vous dis, les Gouins, au niveau de l'église, de l'Assemblée de Dieu, je suis le premier pasteur, le tout premier pasteur de mon ethnie. Comme je vous disais, l'évangile n'est pas rentré chez nous vite. Donc, or, les Africains se soutiennent par ethnie. Même dans l'église, c'est par ethnie. Bon, y a pas des gens de mon ethnie comme ça. Ça a pris du temps pour que des gens autres que mon ethnie me soutiennent. Alors donc, moi, je suis allé à l'école publique. Au retour, donc, je n'avais pas où loger. C'est donc, je me débrouillais pour loger chez des amis de gauche à droite, et puis pour passer les vacances et puis repartir encore. C'était comme ça. Jusqu'à ce que, alors, on puisse finir l'école publique et que, alors, il y ait un changement. Alors, c'était en 96 que j'ai fini l'école publique. Je suis allé en 93, donc en 96, j'ai fini l'école publique. Et en l'an 2000, les grands frères qui s'opposaient donc à mon appel, qui m'avaient inscrit à l'école, devaient mourir. Il était atteint d'une maladie, c'était difficile. Je ne sais pas exactement, mais moi j'ai pensé que c'est le sida, parce que j'ai travaillé dans des associations de lutte contre le sida. La façon dont ça s'est manifesté, bon, vraiment, je crois que c'est le sida. Il était à Ouagadougou, il était devenu inspecteur. En fait, là-bas, il y a eu le concours des inspecteurs et il était en formation. Il était même en fin de formation et qu'il a soutenu même. Mais il était toujours malade. Il se débrouillait avec des médicaments pour pouvoir tenir. Les jours de sa soutenance, il s'est dopé de médicaments pour pouvoir tenir et défendre sa thèse. Il a eu 13 sur 20. Bon, et j'étais aussi à Ouagadougou en ce temps-là. Je suis allé chez lui, je lui ai parlé tout doucement et je l'ai envoyé à Christ. Il a accepté de se convertir. Et quand il s'est converti, la semaine qui a suivi, donc, il est parti à Banfora et il est décédé. Même pas plus, 5 jours après, il est décédé, après sa conversion. Donc, vraiment, là, c'est ça que j'ai fait, lire Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Après lui, sa conversion, sa deuxième fille s'est convertie. Après elle, tous ses enfants se sont convertis. Et quand je dis tous ses enfants, il a eu une première femme avec qui il a eu 4 enfants. Et quand il voulait s'arrêter comme ça, la première femme l'a décédé en 88. Alors, il était obligé donc de prendre une deuxième femme. En Afrique, aucune femme ne va accepter prendre un mari et puis sans avoir d'enfant avec ce mari-là. Donc, alors, il a eu donc un autre enfant avec cette femme-là. Ça fait 5 enfants. Et ils ne se sont pas entendus avec la femme-là. Ils se sont séparés. Et puis, donc, il était obligé de prendre encore une troisième femme, avec qui il a eu encore un enfant. Donc, ça fait déjà combien? 6 enfants. Or, il avait eu un enfant hors mariage. Ça fait 7 enfants. Donc, quand il est mort comme ça, imaginez-vous, pasteur, c'est sur moi que les enfants sont revenus. Puisque l'autre grand frère est au village, on n'était que 3 seulement. L'autre grand frère est au village. Au village, il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'infrastructure, etc. Donc, c'est sur moi qu'ils sont revenus, malgré mes 50 francs que j'avais par mois. Donc, les enfants sont revenus sur moi. C'est vrai, il était fonctionnaire. On a dit, bon, il a eu le concours de l'inspectorat, il n'a pas pris fonction. Donc, on ne considère pas ça. Il n'est pas inspecteur. Il est donc enseignant. Il doit avoir une retraite d'enseignant. Comme il est décédé, il n'y a pas de retraite. Il y a donc la pension pour les enfants. La pension aussi pour les enfants, il n'y a pas de femme, puisque la première femme avec qui il avait fait le mariage est décédée. Les autres, là, moi, il est exhorté vivement à se marier. Il a refusé qu'il ne va pas, signer. Et il est mort comme ça. Donc, c'est la pension seulement des orphelins qui étaient là. Et la plupart, il y en a qui avaient 16, 17 ans. Bon, ça n'a pas tardé. À partir de 20 ans, on les enlève. Donc, toute la chair est venue sur moi. Mais je rends grâce à Dieu. Donc, tous ces enfants se sont convertis. Et aujourd'hui, la première fille est professeure d'anglais. Elle est restée avec Marie Bach, elle est professeure d'anglais. Le deuxième fils, il est actuellement en deuxième année de géographie. Il a fait un accident. C'est un peu difficile, mais bon, il est à l'université en deuxième année de géographie. Le deuxième fils, lui, il est en train de faire CBBG. Chez nous, CBBG veut dire chimie, biologie, biochimie, géologie. Nous voulons qu'il devienne ingénieur géologue parce qu'au Burkina, il y a beaucoup de sites d'or, des mines d'or un peu partout. Nous voulons qu'il devienne géologue pour pouvoir travailler dans ces mines-là. Ensuite, les grands frères qui est au village avaient son premier fils qui était avec le grand frère de fer. Lui aussi, il est revenu sur moi. Donc, ils étaient donc maintenant 4. Lui aussi, il fait la troisième année en économie, SEG. Donc, en tout cas, vraiment, ils sont tous... Il y a au moins 4 qui sont à l'université. Et puis, bon, il y a une qui est en classe de seconde. Voilà. Et bon, celle qui est hors mariage, là, bon, elle n'est pas venue. Et la, le dernier enfant, ce qui fait que je dirais que le grand frère, je crois que c'est le sida, parce que le dernier enfant, quand il est décédé, lui aussi, le dernier enfant là aussi est décédé. Et la femme est présentement malade, gravement. Ok, donc c'est comme ça, ils se sont convertis. Et quand ils se sont convertis, on est resté toujours dans la foi, en train de prier, en train de prier pour ceux du village. Et ceux du village, il y a 3 ans de cela, le grand frère du village, lui, il avait 2 femmes. Sa deuxième femme est venue se convertir chez moi en ville. On est à 20 km comme ça du village. Elle est venue se convertir. Ensuite, la première femme est venue se convertir. Ensuite, le grand frère lui-même est venu se convertir. Ensuite, son premier fils est venu se convertir. Et toute la famille s'est convertie. Sauf la maman, la vieille mère seulement qui reste. C'est elle qui ne s'est pas encore convertie. Quand je venais, je lui ai parlé de tout mon cœur pour qu'elle puisse se donner. Elle est âgée, elle est de 1934, je ne sais pas, elle doit avoir 77 ans, voilà. Elle a 77 ans. Pourquoi attacher à la tradition? Elle ne veut pas lâcher. Mais je crois au nom de Jésus qu'elle va lâcher. Amen. Alors donc, voilà ce que le Seigneur a fait vraiment dans ma vie et qui constitue vraiment un miracle. Je crois que le Seigneur est puissant et que ce que le Seigneur prépare, ça arrive. Et je crois que le fait que j'ai quitté le village, que mon âge soit dépassé, qu'il y ait des oppositions et qu'on m'ait inscrit, parce qu'il fallait m'inscrire vraiment pour que je puisse connaître l'évangile et que je sois sauvé, et qu'on m'ait inscrit à l'école et que plus tard j'ai connu le Christ, c'est le plan de Dieu. Et Paul, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté ce passage, je crois que je l'avais noté, Paul avait déjà dit que lui, dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait préparé. Dieu avait préparé, il avait un plan pour lui. Et Dieu a permis que ce plan puisse s'accomplir. Et vraiment, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Si je regarde d'où je viens, le Seigneur est puissant. Il est puissant. Et je rends grâce à Dieu. Je suis très content d'avoir connu Jésus et d'avoir choisi Jésus. Une histoire dit qu'un monsieur devait mourir. Et puis, il avait beaucoup d'héritage. Il avait un seul fils, il avait beaucoup d'héritage. Il avait un serviteur également qui était fidèle. Et puis, bon, à sa mort, il a fait un testament. Il dit à son fils de choisir une seule chose. Dans tout son, de tout son bien-là, l'esclave, les maisons, les bœufs et tout, son fils devait choisir une seule chose. Le fils a réfléchi, qu'est-ce que je vais choisir dans tout cela? Puisque le fils devait choisir une seule chose, et puis le reste là, il laisse à l'esclave. C'est l'esclave qui doit prendre. Et le fils dit, bon, si c'est comme ça là, moi je vais prendre l'esclave lui-même. Puisque j'ai l'esclave de mon père, je le prends lui-même. Si j'ai l'esclave, j'ai toutes choses avec moi. Alléluia. Nous avons choisi Jésus, et avec Jésus, nous avons tout. Nous avons tout. Je ne peux pas dire tout ce que le Seigneur a fait, puisque ensuite est venu mon mariage. Quand mon grand frère, je me suis marié pendant qu'il était encore vivant, quand il m'avait abandonné. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu pousser des gens qui ne sont pas de mon ethnie, qui sont venus me soutenir. Et même ils sont venus, ils n'ont rien donné, mais ils sont venus pour voir comment va se dérouler ce fameux mariage-là. Ils croyaient que j'allais avoir honte, mais ils ont eu honte. Quand ils ont vu les enveloppes, les cadeaux qui défilaient, qu'on me donnait, et même ils étaient obligés de se voir sur place. On cotise 5 francs, 10 francs par-ci, par-là. Et puis ils ont collecté tout, ça ne dépassait pas 7000 francs, environ, je ne sais pas, ici, c'est 5 ou 6 euros, ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils m'ont donné en famille. Mais les autres ont donné, à la fin du mariage, moi j'avais près de 300 000 francs. C'est comme si c'était un commerce que j'avais fait. Dieu est puissant. Il est puissant, il est vivant. Et quand on croit en lui, on n'est pas déçu. Il est avec nous pour nous conduire et pour nous diriger. J'aimerais donc terminer donc en parlant donc de la communauté ici. Je reviens à ce que j'avais dit, mais aujourd'hui, je me pose des questions par rapport à la vie chrétienne, parce que quand je suis devenu pasteur, au début c'était vraiment intéressant, mais plus tard quand j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de comportement, je me suis posé la question. Je disais au pasteur que est-ce que vraiment nous sommes dans la vérité? Puisque de nos jours, en Afrique, particulièrement aux assemblées de Dieu, on sent beaucoup l'égoïsme et on sent beaucoup les querelles, les divisions qui se produisent. C'est comme ce que Paul disait dans les Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Il dit, si je viens, j'ai peur de trouver des divisions, de l'égoïsme, etc., etc. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment nous sommes dans la vérité? J'ai remis en cause ce à quoi j'ai cru. Mais je crois que nous sommes dans la vérité, mais seulement nous ne sommes pas bien organisés. On n'a pas suivi franchement le Seigneur. Donc, ce qui fait que la vie communautaire dont a parlé le pasteur Michel m'a beaucoup touché. Le fait que des hommes et des femmes abandonnent leurs biens et mettent leurs biens en commun pour vivre, c'est vraiment le deuxième pas. C'est ce qui manquait au jeune homme. Le jeune homme a dit, oui, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Depuis ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses. Et le Seigneur dit, il te manque une seule chose. Va et vends tous tes biens, viens et suis-moi. Je crois que ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Et je demande de prier pour les églises. Je dis cela parce que si je veux donner des exemples, on va prendre trop de temps. Ici, vous n'avez pas l'habitude des longs cultes. Mais vraiment, et votre exemple m'a beaucoup touché. Quand le pasteur a parlé, l'exemple m'a touché. Quand je suis venu, j'ai vu l'amour des gens, j'ai vu la consécration des gens pour nous. Rien que avant-hier, hier, la maman, la femme Michel, elle a lavé mes habits, repassé chez nous. C'est impensable chez nous que la femme du grand pasteur lave les habits d'un minable comme moi. C'est pas possible. C'est un amour. Je vous dis comment ça m'a touché. Non, c'est ahurissant. Chez nous, c'est impensable. Donc, vraiment, il y a des problèmes aujourd'hui dans les églises. Des problèmes de division, des problèmes d'égoïsme, des problèmes de séparation. Parce que chacun veut asseoir. Chacun veut régner. On veut régner avant le ciel même. Donc, ça me touche. Et ça me fait remettre en cause le salut. Je me demande, mais est-ce que vraiment... Qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme si, bon, on était parti et puis maintenant, on recule. Je regrette de finir sur ce ton, mais vraiment, c'est pour dire simplement que j'apprécie la manière dont vous vivez ici et je vous encourage à continuer dans le même sens et je vous demande de prier pour nous parce que, vraiment, les églises aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, si je reviens, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il y a vraiment cette question demeure toujours posée par rapport à tout ce qui se passe. Que le Seigneur bénisse.